VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcy, il est Claire Morin-Gibourg. Bienvenue à l'édition de ce mardi 29 septembre. Au sommaire ce soir...
Burkina Faso, situation tendue dans la capitale après les avertissements de l'armée loyaliste laissant présager un assaut imminent contre les putschistes.
Et quand la radio nationale n'a pas pu faire son journal parler de 13 heures, la peur s'est généralisée. Mais selon les responsables de la radio nationale, il a été demandé aux journalistes de rentrer chez eux.
Nous ferons le point avec un de nos correspondants sur place.
Aux dernières nouvelles, on apprend qu'il y aurait même des tirs du côté du palais de Kossiam, là où se trouve le régiment du RSP, est dissous vendredi. En RCA, la présidente de la transition abandonne l'Assemblée générale de l'ONU pour retourner en toute hâte à Bangui, une capitale en proie à des violences intercommunautaires.
Parlant de l'Assemblée nationale, on fera le point sur les derniers développements avec notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso.
C'est une deuxième journée au programme moins chargé, moins de sirènes et de cortèges aux voitures blindées noires dans les rues de New York. Cependant, des réunions au plus haut niveau continuent de se tenir.
En Afghanistan, les revers de l'armée afghane dans la ville stratégique de Kunduz entraînent de nouvelles frappes de l'aviation américaine contre les talibans.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Nous avons en studio avec nous Nicolas Pinault. Alors Nicolas, la situation semble avoir évolué au Burkina Faso. La situation était tendue dans la capitale ce matin, comme nous l'avions dit. On s'attendait à une éventuelle attaque des loyalistes contre les putschistes du général Diendéré. Mais il paraît qu'il y a eu des tirs aux dernières nouvelles.
Alors ce soir, évidemment, on rapporte notamment l'agence France Presse des tirs hein, sur le camp où étaient retranchés évidemment les éléments du régiment de sécurité présidentielle du général Diendéré, auteur du putsch évidemment de ce mois de septembre. On rappelle la situation, chérubin, puisque la médiation de la CDAO n'avait pas vraiment réglé le problème hein, du RSP. La médiation de la CDAO avait proposé un projet d'accord dans lequel le prochain président élu au Burkina Faso aurait à régler le problème du RSP. Depuis, Michel Kafando est revenu aux affaires, ainsi que le Premier ministre Zida. Il a été décidé la dissolution du RSP, dissolution actée, mais le désarmement ne l'était pas. Depuis plusieurs jours, il y a un peu une situation d'attente. Finalement, certains éléments du RSP ont déjà été envoyés, notamment en province. D'autres, notamment le général Diendéré, refusent toujours de désarmer. Et ce soir, apparemment, il semblerait que ce soit le déclic entre le reste de l'armée burkinabé contre le RSP. On rappelle, détail important, hein, que ce RSP a bien été dissous légalement, mais dans le concret, pas encore.
Voilà. En RCA, Bangui, toujours en proie aux violences intercommunautaires, ce mardi était plutôt calme, malgré les tirs à l'arme lourde et légère entendus dans les quartiers nord. On fait le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Contrairement à ces dernières 72 heures, la capitale centrafricaine a été calme aujourd'hui, malgré la persistance des barricades. Aucun affrontement n'a été rapporté dans les zones affectées ces derniers jours par les violences. De nombreuses scènes de pillage des locaux des organisations humanitaires ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans les 1er et 5e arrondissements. Les nombreux appels au calme, dont celui de la présidente de la transition depuis New York, semblent tomber dans l'oreille du sourd, car sur le terrain, la réalité des faits démontre le contraire. Jusqu'en début d'après-midi, la MINUSCA a renforcé son dispositif dans la ville. Des casques bleus ont été déployés au sol afin de démanteler les barricades pour faciliter le retour au pays de la présidente Catherine Samba-Panza. Mission très compliquée dans les quartiers nord où des accrochages ont été régulièrement enregistrés entre forces onusiennes et hommes armés. Dans une déclaration ce matin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que certains officiers de l'armée nationale bien connus ont voulu profiter de la situation pour déstabiliser la transition. Le grand jour à craindre est ce mercredi 30 septembre, jour de rassemblement populaire de la société civile pour exiger le redéploiement des forces armées centrafricaines et l'application du mandat de la MINUSCA. Ces violences déclenchées le samedi 26 septembre ont déjà fait plus de 60 morts et plus d'une centaine de blessés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso est-il en campagne électorale alors que la constitution du Congo-Brazzaville lui interdit de briguer un nouveau mandat en 2016 ? Depuis plusieurs mois, la radio-télévision publique congolaise et divers sites internet, de grands panneaux d'affichage et même son compte Twitter relaient des messages présentant le chef de l'État comme je le cite, l'homme de la situation ou l'apôtre de la paix ou bien encore l'artisan de la démocratie. Le 22 septembre, il a annoncé son intention de soumettre à référendum un projet de nouvelle constitution qui lui permettrait de se représenter, une manœuvre dénoncée par l'opposition.
Le procès pour subornation de témoins de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et quatre de ses proches s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba est accusé d'avoir pensé et coordonné un plan depuis sa cellule de La Haye pour corrompre financièrement 14 témoins avec l'aide de quatre co-accusés. Le but était d'obtenir l'acquittement de M. Bemba dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis en Centrafrique.
Nouveau braquage en République démocratique du Congo. Des malfaiteurs ont mis la main aujourd'hui sur plus de 40 000 $ lors d'un hold-up dans le centre de Lubumbashi, au surlendemain d'une attaque contre un convoi de fonds qui lui avait fait 13 morts. Selon des témoins et des policiers interrogés par l'AFP, quatre hommes équipés d'armes automatiques se sont emparés d'une malle remplie de billets au moment où celle-ci était livrée à une agence de la Trust Merchant Bank dans le centre de la capitale du Katanga. Après avoir tiré quelques coups de feu en l'air, les assaillants se sont enfuis avec leur butin à bord sans être inquiétés. Dimanche après-midi, ce sont 13 personnes qui ont été tuées dans l'attaque d'un convoi de fonds chargé de distribuer la paye des fonctionnaires à l'Emera dans une zone reculée du sud Kivu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Sommet sur le terrorisme mondial en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain Barack Obama a de nouveau réclamé ce mardi le départ du président syrien Bachar al-Assad pour vaincre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie, qui insiste au contraire pour maintenir Assad au pouvoir afin de combattre Daesh, n'a envoyé qu'un diplomate à ce sommet. Monsieur Obama avait convoqué cette réunion pour remobiliser ses troupes, souligne l'AFP, un an après le lancement de la coalition militaire contre les djihadistes, à laquelle participent une soixantaine de pays. Pour tous les détails sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York, nous avons sur place notre envoyée spéciale, Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir.
Alors, comment se présente cette journée à l'ONU ?
Alors, moins de sirènes et de cortèges qu'hier, moins de voitures blindées noires dans les rues de New York. Cependant, des réunions au plus haut niveau, vous l'avez dit, continuent de se tenir dans la matinée, réunies autour de Barack Obama et de Ban Ki-moon, le président nigérian et le premier ministre irakien, pour une discussion sur les violences extrémistes devant un parterre de chefs d'État, vous l'avez précisé, 60. L'occasion donc de parler en longueur des menaces terroristes, notamment en Afrique avec Boko Haram. Au deuxième jour de cette 70e Assemblée générale, les sujets africains restent timidement abordés. Toutefois, les interventions des leaders africains ont été moins suivies, étant donné qu'elles étaient très tard hier soir. Elles se poursuivaient toutefois ce matin, mais dans une relative discrétion. Certains chefs d'État ont déjà quitté New York, comme la centrafricaine Catherine Samba-Panza, rentrée en urgence, ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, reparti pour le Mali. L'un des grands absents, Alassane Ouattara, le président ivoirien en pleine campagne électorale pour un second mandat présidentiel. Pourtant, les dossiers chauds sur le continent africain ne manquent pas. La question du terrorisme, les crises politiques du Burundi, Burkina Faso, du Soudan du Sud ou encore de la Centrafrique où l'escalade de la violence est plus que jamais importante. Il restera enfin une journée à la communauté internationale réunie sous les drapeaux de la Cour des Nations Unies ici pour se pencher aussi sérieusement sur le sort des pays où la société civile semble en pleine mutation, comme on observe par exemple au Congo-Brazzaville ces derniers jours.
Merci Tatiana Mosso.
En Afghanistan, les forces gouvernementales soutenues par l'aviation américaine ont tenté aujourd'hui de reprendre aux talibans le contrôle de Kunduz, la cinquième plus grande ville du pays, au lendemain de sa prise surprise par les rebelles. Les talibans, eux, veulent y appliquer la plus stricte loi islamique. La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. Lionel Gaïma.
La prise de Kunduz est la victoire la plus importante des talibans en près de 14 ans de rébellion. La facilité avec laquelle les rebelles se sont emparés de la ville jette une lumière crue sur les limites de forces gouvernementales qui les combattent seules sur le terrain depuis le retrait à la fin 2014 de troupes de combat de l'OTAN. Les talibans paradent dans Kunduz à bord de 4x4 volés, scandant Allahu Akbar et appelant les habitants de la ville à la soumission et à la délation.
Je demande à chacun d'entre vous d'aider les Moudjahidines à dénoncer les traîtres et les hypocrites. et ceux qui se comportent mal envers le peuple.
Même temporaire, la prise de Kunduz assure aux talibans un ralentissement international qui pourrait permettre à leur nouveau chef d'asseoir sa légitimité. Les talibans ont ainsi publié une vidéo de 10 minutes sur les réseaux sociaux pour mettre en scène leur victoire, vidéo où les insurgés assurent qu'ils vont appliquer une interprétation stricte de la charia. Entre 1996 et 2001, lorsque les talibans ont dirigé l'Afghanistan, l'éducation et le travail des femmes étaient interdits, ainsi que la musique et les loisirs.
Crise des migrants en Europe, le cap d'un demi-million de personnes ayant traversé la Méditerranée vient d'être franchi, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le HCR. Détail, Lucie Lamont.
Ce sont près de 383 000 migrants qui ont rejoint la Grèce et environ 129 000 l'Italie. Le HCR ajoute que ces personnes, souvent épuisées et traumatisées par un voyage où beaucoup succombent, ont besoin d'une protection internationale. Selon les Nations Unies, la Méditerranée continue d'être la voie la plus meurtrière pour les réfugiés. Depuis le début de l'année déjà, environ 3 000 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre l'Europe par la mer, contre 3 500 personnes en 2014. Dernier exemple de ce voyage périlleux en Libye, où les gardes-côtes ont annoncé avoir secouru cette nuit 346 migrants, en majorité des hommes, à bord de trois canots pneumatiques. C'est ce qu'affirme Mohamed Janan, un officier des gardes-côtes libyens. Les migrants ont été acheminés vers la base navale de Tripoli avant d'être placés dans des centres de rétention. Les pays européens se sont mis d'accord la semaine dernière pour se répartir 120 migrants et aider financièrement les pays voisins de la Syrie. Mais l'ONU a appelé les dirigeants à faire davantage, alors que l'Europe traverse sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil d'assure, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Nous cédons la place à Nathalie Barge.
La crise au Burkina Faso a coûté 50 milliards de francs CFA selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres lundi. Les pertes de recouvrement occasionnées pendant la période du putsch sont estimées à 11 milliards de francs CFA. Au niveau des recettes douanières, elles sont chiffrées à 9,7 milliards, rapporte l'AFP. Sur le plan de la trésorerie, les pertes directes s'élèvent à plus de 30 milliards de francs CFA selon le texte. Le Nigeria fournit 300 mégawatts au Togo, au Bénin et au Niger. La communauté électrique du Bénin, la SEB, a été conseillée par la Commission nigériane de réglementation de l'électricité, la NERC, de se préparer à payer des taux commerciaux pour l'électricité qui lui est fournie par l'entreprise industrielle nigériane NESI. Le président de la NERC, Sam Amadi, a déclaré lundi que la réforme en cours dans l'industrie de l'électricité au Nigeria ne compromettra pas les relations internationales et les intérêts stratégiques du Nigeria. Une délégation de la SEB était au Nigeria pour connaître les effets de la privatisation des centrales restantes appartenant à l'État dans le cadre du projet national d'électricité intégrée. Askai, la compagnie aérienne africaine dotée du plus grand réseau en Afrique de l'Ouest et centrale, a enregistré une augmentation de 33% du nombre de passagers en août 2015 par rapport à la même période l'année dernière, rapporte l'APA. Askai dessert 22 villes dans 19 pays africains.
Merci Nathalie pour cette Minute Éco.
Les sports avec Nicolas Pinot. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Afro-basket féminin 2015 à Yaoundé.
Le Mali bat l'Ouganda 73-52. Belle victoire des Sénégalaises contre l'Égypte 84-72. Défaite de l'Algérie face au Nigeria 49-79. La Guinée qui l'emporte 89-47 face à l'Angola. À suivre l'Afrique du Sud justement contre la Guinée équatoriale et encore le Gabon face au Mozambique.
Et le ménage à la FIFA continue.
La commission d'éthique a suspendu à vie le Trinidadien Jacques Warner, homme clé du scandale de corruption autour du football mondial. Il a été suspendu à vie de toute activité liée au football pour avoir proposé ou accepté des paiements illégaux, autrement dit des pots de vin. Je vous rappelle que Warner, c'est l'ancien patron de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et de la Caraïbe, la CONCACAF, et il est toujours président de la Fédération des Caraïbes. En tout cas, jusqu'à ce matin, les États-Unis ont demandé son extradition.
Oui, il a été arrêté à Port d'Espagne fin mai. La Juventus de Turin sanctionne l'un de ses joueurs.
Et oui, Martin Caceres, qui a eu un accident, le pauvre, avec sa Ferrari, il s'est encastré dans un arrêt de bus. Il était certainement ivre. En tout cas, l'alcotest était positif. Sanction donc de la Juventus de Turin.
Merci Nicolas Pinot.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et Chérubin Orsil à votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Burkina Faso.
Revenons sur la situation à Ouagadougou ce soir. D'après les dernières informations, des tirs d'armes lourdes ont été entendus dans le quartier de Ouaga-2000, où se situe le palais de Kossiam. Il semblerait que l'armée loyaliste tente de déloger le général Diendéré et les soldats qui lui sont encore restés fidèles. Bagassikoura a joint Bourreima Ouedraogo, directeur du journal Le Reporter.
L'ambiance à Ouagadougou, c'est que depuis quelques heures, avec les consignes de sécurité qui ont été données par l'état-major concernant la zone de Ouagadougou, bon, ça s'est étendu à presque toute la ville. Vers 14 heures, les gens circulaient bien, mais au moment où je vous parle, les gens sont en train de chercher à rentrer chez eux.
On a parlé aussi de tirs d'armes lourdes. Hein?
Oui, il semble que de plus en plus l'étau se resserre sur le camp d'Avakoum, où s'est retranché le chef de poursuite Gilbert Diendéré, avec une poignée d'hommes. Il semblerait qu'il a perdu, ou en tout cas la plupart des officiers, sinon tous, ont décidé de l'abandonner. Et il se retrouverait avec des hommes, comme on dit ici, les dirigeants d'une crise qui ont décidé de combattre avec lui jusqu'au bout. Mais l'armée a encerclé le camp Navakoum, l'armée loyaliste, et à ce moment, il semblerait qu'il y a des tirs, l'artillerie lourde qui sont en train de pilonner. Semble-t-il la base de Gilbert Diendéré.
Est-ce qu'on sait, ils sont combien, Diendéré et ses hommes?
Jusqu'à présent, on n'a pas encore de chiffres exacts. Certains parlent d'une poignée de centaines, d'autres disent qu'ils sont moins, d'autres disent encore plus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, il n'est pas sûr. On n'a pas encore pu dénombrer les gens, le nombre de personnes qui sont actuellement avec lui.
Est-ce qu'une situation pareille, hein, une partie de l'armée qui s'en prend une autre, c'est déjà passé dans l'histoire du Burkina?
Oui, on peut remonter au mutinerie de 2011, où le même régiment de sécurité présidentielle, justement accompagné du régiment du parachutiste commando, donc RPC de Ouagadougou, s'était rendu à Bobo pour mettre fin à la mutinerie de l'armée qui avait effectivement pris la ville en otage en son temps.
Alors, si les armes crépitent, ça veut dire que le dialogue a échoué. Est-ce qu'on parle de reprendre le dialogue du tout?
Toute la matinée, on a entendu ça. Tantôt qu'ils veulent repartir le Mouronaba. Mais en fait, la journée, le matin, on a commencé avec une déclaration des soldats du RSC qui demandait effectivement le retour de la CDAO pour faire la médiation. Mais c'était le médecin après la mort. Ils demandaient qu'on revienne au pré-accord, le point qui est inscrit au pré-accord avant le sommet de la CDAO. Alors que même au sein de la CDAO, ces points-là n'ont pas prospéré, ça a été pratiquement rejeté. Donc, du coup, ils revenaient à une situation perdue d'avance et que personne n'allait les suivre de toute façon dans cette aventure.
Bourreima Ouedraogo, directeur du journal Le Reporter.
Un autre point de vue maintenant avec l'un de nos correspondants à Ouagadougou, Issa Napon, bonsoir. Allô, Issa?
Bonsoir.
Oui, Issa, où est-ce que vous êtes là maintenant?
Oui, là je ne suis pas trop loin de Ouagadougou et le quartier qui abrite bien sûr le palais présidentiel de Kossiam. Il faut se dire que l'étau se resserre autour du général Gilbert Diendéré, autour de qui tout semble se déliter après la défection hier à aujourd'hui d'une centaine de militaires de l'ex-RSP en plus et de bon nombre d'officiers dont le commandant Abdelaziz Korogo, chef de corps intérimaire de l'ex régiment de sécurité présidentielle et le capitaine Abdoulaye Tao, tous mis en sécurité par les forces républicaines. Il faut dire que l'arrestation du général Gilbert Diendéré, l'arrestation du moins général Ibrahim Bassolé, que le gouvernement avait prêté une alliance avec le chef de Poutchiste, vient à rajouter aux deux convenus subis par le chef de Poutchiste. Ce reste le début de la fin pour autant, pour Gilbert Diendéré et ses caciques. Rien n'est moins sûr, même si l'armée met un point d'honneur à régler la question aujourd'hui. Les périmètres entourant la radio nationale, qui abrite donc un camp d'intéressé, et les abords du quartier de Ouagadougou, où se trouve le palais présidentiel, il y a un impressionnant détachement militaire qui quadrille le lieu où des rafales d'armes automatiques ont été entendues en début d'après-midi. Du reste, un communiqué émanant du chef d'état-major général des armées invite la population vivant à Ouagadougou à bien vouloir rester bien à l'abri chez elle.
Merci.
Une chose qui présage certainement un doublement proche de cette nouvelle crise provoquée par les ex-putschistes.
Merci Issa Napon, en direct de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Violence meurtrière en Centrafrique.
On a signalé des tirs sur la route de l'aéroport de la capitale ce mardi. Une situation tendue qui fait suite aux violences de ces derniers jours dans le pays. Elles auraient déjà fait au moins 60 morts selon la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Nicolas Pinault a joint son président Joseph Bidoumi.
Je ne peux pas vous dire exactement. Je sais que je suis sur la route qui mène vers l'aéroport. La route avait été barricadée par les anti-Balaka. Et depuis 13h20-30, il y a eu des échanges nourris de feu. J'ai cru comprendre que c'était pour dégager les barricades qui étaient érigées sur la route. Mais apparemment, ça a l'air de non seulement durer, mais de s'enfoncer dans les quartiers comme s'il y avait des gens qui s'affrontaient à l'intérieur.
Deux ans après le début de la transition, est-ce qu'on n'est pas revenu à la case départ en Centrafrique?
Apparemment, on est pratiquement revenu au point zéro, carrément par la faute de la communauté internationale. Toutes les propositions qui ont été faites dans les résolutions des Nations Unies tendant à neutraliser les groupes armés qui, à l'époque, n'étaient pas nombreux, ils n'ont pas voulu. Personne n'a voulu exécuter les résolutions des Nations Unies. On a fait des recommandations au niveau du Forum national. Personne n'a voulu les exécuter, mais on a plutôt à chaque fois transformé la République centrafricaine en véritable laboratoire, à demander aux gens d'aller aux élections sans désarmement, parce qu'il faut partir faire finir la transition en sachant que les groupes armés sont là, demander aux gens d'aller faire voter les réfugiés dans des camps à l'étranger, en sachant qu'ils n'ont pas réussi tout le recensement à l'intérieur du pays, etc., précipiter le programme pour dire nous voulons finir la transition, en sachant que du point de vue des résolutions des Nations Unies, rien n'a été fait, ni pour désarmer, ni pour démobiliser, ni pour protéger les populations civiles. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'avec plus de 10 000 hommes, on tue comme ça, devant toutes ces forces-là, plus de 20, 30, 40 personnes, on parle de 60 maintenant, et puis des centaines de blessés et de destructions, ça veut dire que la mission des Nations Unies n'a pas réussi.
Catherine Samba-Panza a-t-elle une responsabilité dans la situation actuelle, selon vous?
Je ne vois pas. Enfin, je ne juge pas sa responsabilité. Je sais qu'elle est humaine. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Vous lui privez son armée pour remettre de l'ordre en disant que l'armée centrafricaine est sous embargo. Vous la primez de faire exploiter les ressources nationales pour permettre d'avoir des économies et puis entretenir le pays et sauvegarder la nation. Et puis vous lui demandez de faire quel miracle?
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Conséquences humanitaires graves dans le bassin du lac Tchad, provoquées par les violences de Boko Haram. L'ONU compte déjà 2,5 millions de personnes déplacées. On écoute Manassé Aboya-Endong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala au Cameroun.
La zone du bassin du lac Tchad est une zone extrêmement difficile à escalader. C'est une région aride où les conditions de vie au quotidien sont toujours difficiles. Vous savez que c'est une zone qui est toujours en proie à une sécheresse assez aiguë, très tendue. De même que pendant la saison de pluie, c'est une zone qui est toujours frappée d'inondations. Donc on peut comprendre que, faute d'un développement conséquent, quand il y a un événement inattendu, conjoncturel comme Boko Haram, il va de soi que la situation humanitaire devient une situation catastrophique parce que favorable à la débandade, favorable à des conditions de vie extrêmement difficiles pour les populations déplacées.
Est-ce que les pays concernés n'ont pas des moyens suffisants pour des réponses appropriées à cette crise humanitaire?
C'est davantage la situation créée par des zones de non-droit. Vous savez que l'extrême nord du Cameroun, qui avait le parc de Ouaza, avait toujours eu par le passé à abriter des braconniers qui venaient tuer les gardes forestiers et semer la mort sur leur passage, les morts de paysans, des forces de l'ordre. En réalité, la pauvreté qui s'est agglutinée à côté d'une zone de non-droit a favorisé effectivement la propagation de ce genre de situation. Naturellement, cela va de pair avec une répartition inéquitable de la bonne gouvernance. Donc on peut comprendre que ce soit des zones négligées qui, face à la montée en puissance du terrorisme et de l'insécurité transfrontalière, soient le terreau propice de ce genre de crise, comme nous sommes en train de le vivre, la crise humanitaire dans la région du bassin du lac Tchad.
Il y a 2,5 millions de personnes déplacées, dont 2,3 millions d'entre eux sont des déplacés internes. Peut-on parler d'une population sacrifiée?
C'est une population qui est dans la tourmente. Vous voyez, du Niger au Cameroun, en passant par le Tchad, voire le nord-est nigérien, c'est une région extrêmement prise dans les taux de difficulté. C'est une crise qui va affecter beaucoup plus que 2 millions et demi de déplacés, parce qu'en réalité, c'est une zone qui abrite pas moins de 5 millions d'âmes de part et d'autre des frontières. Donc, ma foi, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Ces pays-là, laissés à eux seuls, ne peuvent pas faire face à cet afflux de réfugiés. Il faut absolument une intervention de la communauté internationale.
Le professeur Manassé Abouya, joint à Yaoundé par Eric Manirakiza.
Sur le dossier syrien, les divergences persistent entre les Russes et les Américains pendant que le groupe État islamique gagne du terrain. Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Baraï Makhel, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur.
Cela va faire 5 ans que l'on est dans une guerre qui ne prend absolument pas fin, qui au contraire semble se prolonger et provoquer de plus en plus de victimes. L'une des parties du blocage qu'il y a eu le long de ces dernières années, d'un côté, certains acteurs étaient prêts à s'accommoder du régime syrien, voire de la présence de Bachar al-Assad, et d'autres personnes estimaient qu'au contraire, la condition sine qua non pour arriver à un processus de paix et à un renouvellement des perspectives serait de mettre de côté Bachar al-Assad.
Qu'est-ce qui devait être la priorité alors? Est-ce que c'est le départ de Bachar al-Assad ou bien combattre le groupe État islamique?
Moi, je crois que la lutte contre l'État islamique doit être prioritaire. C'est effectivement cette formation qui est problématique, en ce sens que d'un côté, elle ne représente absolument pas les Syriens, et de l'autre part, c'est une organisation qui a des méthodes barbares, qui de toute façon sème la zizanie et le chaos plus qu'autre chose. La question de Bachar al-Assad, pour sa part, devra se poser un jour, bien sûr, mais je crois que, étant donné que insister sur un départ d'ores et déjà de Bachar al-Assad ne fait que renforcer ses méthodes et renforcer son attachement au pouvoir, et étant donné également que Bachar al-Assad a des alliés de poids, comme la Russie, comme l'Iran, ainsi que comme quelques milices, dont le Hezbollah libanais.
Même l'opposition syrienne, elle est fragmentée, et même certains d'entre eux, c'est des islamistes connus, comme le Front al-Nusra.
L'opposition syrienne a été fragmentée depuis le début, malgré ce que certains médias ont vendu comme image, aussi bien pour la coalition des forces syriennes que pour la fameuse armée syrienne libre, qui finalement ne valent pas grand chose en termes de poids politique ou de poids militaire. Avec le pourrissement de la situation, on a vu également l'émergence de formations radicales, peut-être que Jabhat al-Nusra, qui finalement est franchise d'Al-Qaïda en Syrie. Même les États-Unis, d'ailleurs, se sont ralliés à l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire entièrement fi du régime pour bâtir un processus de transition.
Et les Russes ont des opinions sur lui en Syrie, non?
Alors les Russes, ils étaient déjà présents avant l'officialisation de leur entrée. Mais je dirais que le saut qualitatif que l'on a maintenant, c'est que d'un côté, les Russes disent franchement et officiellement, nous participons à cette guerre et nous soutenons le régime syrien. Et on va dire, retournement de situation, un pays de poids tel que les États-Unis ne rejette finalement pas cette contribution russe.
C'était Baraï Makhel, directeur de recherche de la Fondation pour les relations internationales et le dialogue extérieur. C'est tout pour cette édition. Au micro, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
On remercie Joselle Morissin qui a dirigé la mise en onde. Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.